BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Erwan Maurice.
17h30 tout pile, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver. On est en direct ensemble jusqu'à 18h pour commenter cette dernière séance de la semaine. Partager avec vous les analyses aussi de nos meilleurs experts que je vais vous présenter dans un instant. La clôture dans 5 minutes et à quelques minutes de la cloche. C'est du vert sur les marchés européens, le CAC 40 qui rattrape un petit peu hein, la séance d'hier. On devrait clôturer autour de 0,8%, progression 0,8% à 8367 points. Le marché européen, je le disais, globalement bien orienté du côté de Francfort. On signe une hausse d'un peu plus de 1%. La bourse de Londres, plus 0,8%. Petite embellie marquée aussi par le recul du pétrole, hein, après avoir tapé les $100. Hier, on en parlait dans cette émission. Le baril de Brent se négocie en ce moment $95. Dans ce contexte-ci, on note une pause sur les taux à 10 ans. C'est notamment le cas du 10 ans français qui avait franchi les 4% hier. On est aujourd'hui à 3,96, en tout cas ce soir. Séance qui marque aussi la fin d'une première semaine de résultats semestriels. On va y revenir en longueur tout au long de cette demi-heure dans le logiciel notamment SAP. Ce matin, du côté de Wall Street, Intel. Hier soir, la bourse de New York. Du côté de Wall Street hein, qui est alors orienté dans le vert. C'était du rouge du côté des valeurs technologiques tout à l'heure, mais finalement on est à l'équilibre sur le 900 sur le Dow Jones, idem du côté du S&P 500. Tout cela, on en parle jusqu'à 18h, donc avec nos invités que je vous présente. Avec nous au plateau, Stéphanie Bauger, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous accompagner, gérante privée à la financière d'Uzès, également à distance, Eric Lewin. Bienvenue Eric.
Bonjour à tous.
Stratégiste action chez Bourse Direct. On est à 3 minutes maintenant de la clôture. Eric, peut-être je commence à aller avec vous. Qu'est-ce que vous retenez de la semaine avant de commenter la séance là, qui va se clôturer dans un instant?
Bien, écoutez, la semaine, on retiendra la BCE, bien sûr, avec sans doute une hausse des taux en septembre prochain. Le baril qui a connu quand même une envolée de quasiment 40% par rapport aux $70 qu'on avait vu début juillet. Et puis sinon, il y a eu pas mal de bons résultats. Alors, j'ai listé un petit peu pour vous les bons résultats. Total Energy, quand même, c'est pas mal, plus 7% sur la semaine. BNP qui a dépassé les attentes avec une hausse de 3% et notamment hausse de 42% de son chiffre d'affaires trimestriel. Déception ST Microelectronics, moins 15%. Un peu juste, pourquoi? Parce que 26% de hausse du chiffre d'affaires sur le chiffre d'affaires pourrait progresser de simplement 16%. Existe quand même bien à la tornade venue du pétrole qui a quand même touché les $102, je crois que c'était hier. Et puis les résultats aux États-Unis, un peu juste, Alphabet et Tesla. Et ce qui est intéressant, mon cher Erwan, c'est que j'ai le sentiment qu'on ne regarde plus les résultats aux États-Unis, mais on regarde ce qu'on appelle les CAPEX, c'est-à-dire les dépenses d'investissement. Et dans le cas d'Alphabet, par exemple, ça a fait peur au marché. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'ils dépenseraient entre 195 et 205 milliards cette année, ce qui est nettement supérieur aux attentes. Donc il y a un petit peu une onde de choc un peu dans ce marché de la tech américaine. Pour l'instant, on tient, mais jusqu'à quand?
On avait Intel aussi, hein? Hier soir, Stéphanie Moget, comment est-ce que vous avez regardé cette publication?
C'est une excellente nouvelle hein, sur Intel. On a vraiment des résultats bien meilleurs qu'attendus, avec un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre qui est en hausse de 25%, alors qu'on attendait consensus à une hausse de plus de 12%, avec vraiment la croissance la plus rapide depuis 15 ans pour ce groupe, qui est porté par un bond massif à 59% de toute son activité data center et IA, à plus de 6,26 milliards donc de dollars. Et on a en plus de ça un bénéfice par action qui est le double de ce qu'on attendait. Donc c'est vrai qu'on a effectivement une marge brute qui est positive, la demande aujourd'hui en wafer hein, qui dépasse les capacités. Donc tout ça, c'est des tendances de fond qui ont vraiment porté la valeur et qui ont rassuré sur des valeurs comme AMD, comme ARM, sur l'indice semi-conducteur. Donc voilà, donc on a quand même là-dessus sur Intel une très belle publication qui effectivement rassure et va peut-être donner envie de se tourner sur cette thématique intelligence artificielle, effectivement plus vers ceux qui produisent que vers ceux qui vont pour le moment mettre en œuvre leur modèle, hein, parce qu'effectivement Eric commentait les résultats d'Alphabet, c'est des chiffres qui sont vertigineux, hein, parce que sur Alphabet on a certes des capex qui sont aujourd'hui plus élevée que le free cash flow, mais qui néanmoins montre qu'il y a une vraie rentabilité. Hein, c'est-à-dire que le Google Cloud, hein, cette activité quand même pour Alphabet, est en hausse de 82% avec une marge opérationnelle de plus de 35%, presque 35,6%. Donc, il y a une rentabilité de cette activité IA, mais effectivement, ça va être long de déployer ces capacités. Et puis même en termes d'utilisateurs, hein, sur l'app Gemini, ils revendiquent 950 millions d'utilisateurs actifs. C'était 750 en février. Donc, ça va quand même très vite. Et donc, Alphabet, effectivement, appuie des très bons résultats. Ouais. Fait peur avec ses capex, parce que c'est un peu remonté. Voilà, faut pas oublier, hein, les chiffres. Amazon, c'est 200 milliards de capex. Microsoft, donc 190. Google, on a parlé. Meta, 140. Et il y a Apple qui est très sage avec ses 14 milliards.
Mais c'est ça, parce qu'on a quand même, comme vous le disiez à l'instant, de très bons résultats. Pourtant, c'est du rouge, hein. Du côté d'Intel, là, on perd quasiment 3%. Qu'est-ce qui inquiète? C'est les difficultés quand même à produire face à une demande qui ne cesse de croître, et puis des investissements aussi qui sont toujours de plus en plus importants, dans notamment l'IA.
Oui, alors je pense qu'on joue à se faire peur, effectivement, parce qu'on a d'un côté Morgan Stanley qui annonce durablement des manques de capacité de production pour tout ce qui est notamment mémoire, hein, donc toutes les sociétés comme Samsung, TSMC, Micron, Skynix, Broadcom, qui sont qui produisent, mais qui investissent énormément. TSMC a encore annoncé augmenter de 100 milliards de capex ses investissements aux États-Unis pour produire. Donc ça, la tendance est là, mais finalement en face, est-ce que on va réussir à rentabiliser ces investissements aussi vite que prévu et à faire en sorte que ces amortissements ne soient pas trop pénalisants dans les comptes des sociétés. Mais on voit que les utilisateurs sont là. Maintenant, il faut monétiser encore plus vite.
17h37, allez, un coup d'œil sur la clôture et le marché parisien qui termine donc la semaine sur une séance dans le vert, plus 0,39%, plus 0,8% pour le CAC 40 à 8372 points. Le SBF 500 progresse aussi de 0,8%. L'Eurostock 50 plus 1%, 6273 points. Du côté de Francfort, on disait c'est probablement la plus forte hausse en Europe. 1,25% à 25 071 points. Londres, plus 0,9%. Le pétrole, on en parlait, qui se stabilise sous les 100 dollars le baril. On est à 96 dollars en recul de 5% par rapport à hier. Si on regarde du côté des plus fortes hausses sur l'indice parisien, c'est Dassault Systèmes, entraîné, on va en reparler, mais par de bons résultats, une belle publication. Deuxième très belle séance de hausse pour l'éditeur de logiciels 3D, plus 7,9% encore ce vendredi. Le titre s'achète à 19,80€, suivi sur le CAC 40 de Capgemini, plus 4,4%, Safran, plus 2,6%. Et Crédit Agricole du côté des bancaires. Côté plus forte baisse, on a Carrefour, on en parlera avec vous dans un instant. Eric Lewin qui recule de quasiment 5%. Le titre se négocie 15,70€. Les valeurs technologiques, ST Micro recule de 2,5%, Thales moins 0,8% et Orange moins 0,7%. Eric Lewin, qu'est-ce que vous retenez de cette séance?
Écoutez, ce que je retiens quand même, c'est la très bonne performance de tout ce qui est les logiciels et les sociétés informatiques. J'ai le sentiment qu'il y a un vrai retour en grâce quand on voit notamment Dassault Systèmes. Alors certes, Dassault Systèmes a publié hier avec un chiffre d'affaires en hausse de simplement 2%, mais l'acquisition d'Aris Global aux US, qui est un éditeur américain de logiciels dédié aux essais cliniques, a été payée simplement 10 fois le chiffre d'affaires, alors que souvent les multiples sont entre 15 et 20. C'est une bonne nouvelle, et le secteur a été emporté, vous parliez du marché allemand, a été emporté par SAP, qui a publié d'excellents résultats. Il y a eu une très très bonne publication. Donc moi j'ai le sentiment peut-être qu'on a mangé notre pain noir sur le secteur des logiciels, sur le secteur informatique. D'ailleurs, vous voyez qu'aujourd'hui même, il y a des plus petites sociétés, notamment Alten dans la R&D externalisée, qui gagnent 5%. Donc il y a du mieux. Ce sont des valeurs qui sont complètement survendues. Je crois qu'on regardait les ratios d'Assos Systèmes. On devait payer ça 16 à 18 fois en termes de PE, là où on payait entre 35 et 40 fois. Donc moi, pour moi, l'élément le plus important de la journée, à part bien entendu la baisse du pétrole, mais sur lesquels on va parvenir, parce qu'on sait très bien que Trump peut souffler le chaud et le froid. Dès que le pétrole dépasse 100 dollars, l'ami Trump, il se rend bien compte que c'est pas bon pour le consommateur américain, donc il dit attention, on va trouver un accord. Et puis quand t'es à 70, il faut plaire au pétrolier américain, donc il pousse un coup de gueule. Donc on va pas parler du pétrole, non, mais simplement, j'ai le sentiment que la bonne nouvelle du jour, c'est le retour en grâce de l'ensemble du secteur informatique. Et puis le coup de blues du jour, on va en parler, c'est bien sûr Carrefour, qui est en forte baisse ce soir.
Stéphanie Moget, d'accord avec ça, c'est la semaine de la tech et de l'intelligence artificielle, clôturée magnifiquement avec SAP, qui signe de très bons résultats, qui va peut-être porter aussi, là, la star du logiciel européen, l'ensemble du secteur.
Oui, oui. Alors, c'est sûr que enfin, on respire sur ce secteur qui a été très durement attaqué, hein, le fameux SaaSpocalypse, hein, dont on parlait. On a eu aussi des publications de plus petites valeurs, comme des SideTrade, qui est un des leaders de tout ce qui est le recouvrement de cash. Bon, qui comme Streamwide aussi dans les communications critiques, un Atem aussi dans les logiciels de compression vidéo a publié de très bons chiffres. Et donc tous, en fait, le message, c'est de dire, nous, on bascule vers le SaaS, on a des capacités aussi, on a nos infrastructures qui sont fiables. Certains même, comme SideTrade, a carrément déployé ses propres infrastructures pour être souverain et maître du prix de ce fameux token, hein, qui est souvent un sujet quand même très important. Et donc oui, ce logiciel, on voit qu'en fait, ceux qui ont les data, ceux qui ont des capacités d'infrastructures solides et parfois souveraines même, ça commence à être un vrai sujet, ben, en fait, voilà, sont là, on en a besoin et on peut pas les remplacé d'un claquement de doigts par un code, enfin une ligne, une demande sur...
Mais il fallait peut-être ces résultats pour remettre un coup de pied au fond de la piscine et montrer que le secteur, il est solide.
Bien sûr, et puis on voit que chez Dassault Systèmes, en fait, on a aussi là une acquisition dans le domaine de la santé, qui est quand même un des secteurs qui, sans doute, va être très impacté par l'IA, parce que on va pouvoir accélérer dans tous les développements de ces médicaments, et donc avoir une valeur dans le logiciel et la santé, c'est sans doute une manière d'appuyer Medidata, qui avait une acquisition faite par Dassault Systèmes il y a un petit moment.
Eric Lewin, dans la foulée des résultats de SAP, résultats donc très bien accueillis, quelles sont les autres valeurs dans le logiciel qui vont peut-être pouvoir aussi profiter de cette tendance?
Bah écoutez, pour moi, c'est très clairement Dassault Systèmes, hein, Dassault Systèmes moins 54% en l'espace de 3 ans. Je crois également, je suis assez d'accord avec Stéphanie, je crois également que vous avez tout un ensemble de logiciels à la Bourse de Paris qui ont subi un vent de panique. Alors il y a SideTrade, c'est vrai, qui est tombé à 100 $, à 100 €, qui a été multiplié par 2 depuis, mais j'ai vraiment le sentiment que même dans le secteur du service informatique, on a vu par exemple ce matin Obey qui a révisé en hausse sa prévision de croissance sur l'ensemble de l'année. Je crois que non seulement les éditeurs de logiciels, mais également les ESN devraient avoir un très bon second semestre, avec bien entendu cette SaaS apocalypse qui ne veut rien dire, parce que moi je discutais dans la semaine avec un patron de société cotée, il me disait, attends, moi j'ai pas du tout envie de changer mon ERP, ça peut me coûter des fortunes, et puis je vais pas remplacer ça par l'intelligence artificielle. Donc je trouve qu'on s'est beaucoup angoissé autour de ça. Alors c'est sûr qu'il y a des logiciels où il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée, eux, à mon avis, peuvent être gênés par l'irruption de l'IA, mais des grosses sociétés, notamment comme Dassault Systèmes, à mon avis, l'IA va les accompagner et va leur permettre d'augmenter leur rentabilité. Alors, il y aura peut-être un petit peu moins de chiffre d'affaires, certes, parce que ça peut être un tout petit peu déflationniste, mais c'est ce qu'on voit dans les chiffres, parce que la croissance organique reste faible, mais pour moi, c'est un accélérateur de rentabilité, donc je pense qu'il faut acheter l'ensemble du secteur, 74 Software, SideTrade, Dassault Systèmes, et puis également, on n'en a pas parlé, mais SAP, parce que quand vous regardez un peu SAP, donc software allemand, chiffre d'affaires en hausse de 8% sur la S1 à 19 milliards 4, bénéfice en hausse de 12% à 3 milliards 8, c'est quand même une société qui fait 22% de marge, elle perd 35% depuis le début de l'année Erwan, et ça vaut simplement 11 fois les EBITDA. Donc acheter du SAP aujourd'hui, acheter du Dassault Systèmes, acheter des gros acteurs du secteur, je pense que c'est pas une folie et ça peut être un très bon pari pour le second semestre.
Bon, je vous écoute, là c'est le moment d'acheter, quoi, pour ceux qui hésitaient, hein, Stéphanie.
Oui, mais c'est vrai qu'SAP, en plus on vient de parler d'Alphabet qui est en cash flow négatif, un SAP c'est 10 milliards de free cash flow, donc vous avez là un acteur qui est très solide, qui a en fait l'IA comme un vrai levier, parce qu'en fait aujourd'hui, si vous basculez sur les nouvelles solutions SaaS dans le cloud, notamment surtout pour SAP, en fait si vous voulez l'IA, il faut basculer sur ce SaaS. Donc, ils ont un levier très fort de conversion de leurs clients existants vers le SaaS et qui va être une manière de les pérenniser, de les fidéliser sur des solutions qui, aujourd'hui, effectivement, sont inégalables sur les différentes thématiques métiers.
Stéphanie Moget, Eric Lewin en parlait de cette valeur Aubé, très bonne publication qui ouvre la voie aussi pour les entreprises de services numériques. Comment vous l'interprétez ?
Alors là, on a un très bon élève. Hein. Aubé est vraiment un des best in class dans le secteur, mais on a ce trimestre effectivement plutôt une bonne surprise parce que OB a relevé à la hausse ses objectifs pour l'année avec une croissance du chiffre d'affaires sur le deuxième trimestre de plus de 12% en organique, plus 30% en consolidé parce qu'ils ont fait une acquisition Solutech qui est très réussie, qu'ils ont intégrée au 1er juillet. L'international joue son rôle aussi et on voit bien qu'OB du coup il n'y a pas cette déprime sur le secteur du conseil. Ils ont formé de manière très active toutes leurs équipes à l'IA pour ensuite pouvoir déployer de manière efficace chez leurs clients. Donc voilà, je pense que ça va aussi être le reflet de la sous-valorisation de ce secteur qui avait été très durement impacté par la peur du grand remplacement avec l'IA.
Allez, on a regardé en haut du classement de ce vendredi sur le CAC 40. On va baisser les yeux maintenant et tout en bas, c'est Carrefour. Eric Lewin, le titre perd presque 5% sur cette dernière séance de la semaine. Le titre s'achète 15,70 €. Qu'est-ce qui se passe avec Carrefour ? Déception là du marché avec des résultats en demi-teinte, mitigés.
Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que l'action quand même surperforme depuis un an et depuis le début de l'année. 10% de hausse depuis le début de l'année, 27% en un an. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que le résultat opérationnel courant, qui est la mesure qu'on regarde beaucoup dans le secteur, a progressé de 4% à 757 millions d'euros. Certains attendaient 780 millions d'euros, donc il y a une légère petite déception. Du côté du chiffre d'affaires, ça reste une petite hausse de 2,1% à 43,7 milliards d'euros. Alors, amélioration en France avec un résultat opérationnel courant hausse de 14%. L'Espagne fait plus 7, le Brésil fait plus 6, mais moi mon sentiment sur Carrefour, c'est que c'est vraiment une légère déception après une publication pas mauvaise mais un petit peu inférieure aux attentes. Maintenant, ça reste quand même un titre super value, pas cher du tout. Rendement est de 6%, PER de 9. La grande problématique dans la distribution, c'est que même si vous êtes un BFR négatif, puisque vous touchez de l'argent de la part des consommateurs avant de payer vos fournisseurs, et ça reste quand même un métier de très 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 petite marge, et donc peut-être que les investisseurs, finalement, la distribution, c'est pas un des secteurs les plus sexy, hein. On en parlait avec Stéphanie, il faut mieux peut-être être dans les éditeurs de logiciels où il y a un fort rattrapage que sur la distribution où ça risque d'être compliqué parce qu'on a quand même une économie française à la veille des élections présidentielles qui tombent quand même au ralenti, et Carrefour est quand même très présent dans l'Hexagone.
Stéphanie Moget, sur ce titre et ce secteur?
Oui, c'est un secteur qui est à la peine, parce que on voit bien, on parle de pouvoir d'achat tout le temps, la grande distribution, c'est le pouvoir d'achat. Alors, je crois quand même qu'ils ont réussi à vendre beaucoup de glace avec la canicule. Donc,
Est-ce qu'ils vont réussir à se rattraper avec ça? C'est pas sûr, mais ok. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe aussi du côté de l'automobile. Eric Lewin, vous vouliez nous parler de Volkswagen, qui revoit ses prévisions à la baisse, bénéfice net qui chute de près d'un tiers au deuxième trimestre.
Ouais, écoutez, ça continue dans un secteur de l'automobile très compliqué. Il y a que Renault, la publication, je crois que c'est la semaine prochaine, qui n'annonce pas de choses terribles. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Volkswagen? Révision encore à la baisse des objectifs. Une croissance nulle du chiffre d'affaires allant jusqu'à une baisse de 3%. Alors, on attendait le problème, une croissance cette année entre 0 et plus 3%. Les ventes en Chine sur le S1, c'est ultra compliqué. Moins 30%, et ce qu'on doit dire, c'est que le premier semestre c'est mitigé, moins 0,2% sur le chiffre d'affaires à 158 milliards. On a un résultat net en recul de 11,6%. On a une marge opérationnelle courante de 3,8%. Alors, la direction nous promet qu'elle aura entre 4% et 5,5% sur l'année. Ça veut dire qu'ils feront un meilleur S2. Qu'est-ce qu'ils vont faire, nos amis? Réduction des coûts, suppression d'emplois, fermeture d'usines, moins 30% depuis le début de l'année. Même si c'est pas cher du tout, en termes de PER, je crois qu'on est entre 4 et 5, d'ailleurs, comme Renault. J'ai pas tellement envie d'aller sur la valeur, dans la mesure où elle est quand même très, 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 très dépendante de ce qui se passe en Chine, contrairement à Renault. Et donc, je suis assez mitigé sur la valeur, je le disais, qui perd 30% depuis le début de l'année.
Stéphanie Moget, puis sur peut-être l'automobile européenne.
Oui, alors juste sur Volkswagen, quand même, il ne faut pas oublier la position de cash. En fait, on a une valeur d'entreprise négative, ce qui veut dire que la société est en position de cash excédentaire, mais ça peut aussi être le reflet fait que le marché croit que ce business et voit une décroissance éternelle. Donc voilà, à Volkswagen de nous montrer si...
Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et puis si on élargit au secteur, là, on voit que
c'est un secteur qui est extrêmement compliqué parce qu'on a été pétri de contradictions dans les différentes règles. L'Europe, la première, a changé ses règles en cours de route, les règles du jeu. Donc les constructeurs chinois en ont profité. On voit aussi que ce n'est pas juste une dépression des constructeurs européens parce que Tesla a publié des chiffres qui étaient aussi très décevants. Hein, et donc, on peut aussi voir que en fait, les gens sont quand même assez perdus et on ne sait pas ce qu'il faut acheter. Il y a quand même eu l'effet pétrole qui a emmené les gens vers des achats de voitures électriques.
Là, on voit que ça fonctionne en Europe,
ça l'électrique. Ça fonctionne. Voilà, maintenant, après, il va falloir suivre et pouvoir produire et assez d'électricité pour pouvoir charger toutes ces voitures.
Autre problème, on se garde quelques minutes pour parler du luxe. Pour l'instant, on a eu Richemont, mais on attend les publications la semaine prochaine. Lundi, LVMH, mardi, Kering, mercredi, Hermès. La barre a été mise assez haut avec Richemont. Comment on se prépare à ces publications la semaine prochaine?
Alors, Richemont, c'est un peu un cas à part, parce que c'est des très belles marques de luxe. Alors, je crois que pour la petite anecdote, ils ont même profité en fait, de la prime exceptionnelle qui a été distribuée par Samsung à tous leurs salariés. Effectivement, les gens en Corée se sont rués pour acheter des montres et des bijoux. Donc ça, c'était très favorable pour Richemont, c'est une petite anecdote. Après, effectivement, sur le luxe, on a quand même LVMH qui avait publié un T1 qui était en baisse de 6%, qui était plutôt rassurant, mais je ne pense pas que le climat aujourd'hui, que ce soit le climat sur la consommation, sur la situation du Moyen-Orient, la situation de la Chine, il n'y a que les États-Unis qui sont un peu l'endroit où ça résiste. Je ne suis pas sûre que ça soit suffisant pour rassurer. Et Kering avait quand même fait une petite annonce en pré-annonce pour dire que Gucci, ça n'allait peut-être pas être si facile que ça. Donc, nous, on n'a pas de grandes attentes sur les publications du luxe la semaine prochaine.
Eric Lewin, sur ces signaux sur le secteur du luxe?
Moi, j'ai le sentiment que c'est quand même un petit peu survendu. Alors, si on met dans le luxe, c'est dans Luxottica, mais enfin bon, ça fait quand même moins 40, LVMH fait moins 29, Hermès fait moins 23, Kering fait moins 20. C'est sûr que Richemont était bon, mais Burberry et Moncler, c'était plus discuté. Bah, écoutez, il n'y a pas vraiment de signaux de la part de la Chine, parce qu'on a le sentiment que la consommation des ménages est grippée. Les États-Unis tiennent, mais jusqu'à quand? Parce qu'il ne faut pas oublier que si jamais, on n'en a pas parlé, mais si jamais le Nasdaq venait à décrocher, je pense qu'il pourrait y avoir une onde de choc sur l'économie américaine, parce qu'on a de plus en plus une économie en cas aux États-Unis. Vous avez les fortunés qui consomment et puis toute une classe moyenne qui ne consomme pas. Donc moi, je suis assez réservé sur le secteur du luxe, sauf que ça a tellement baissé que je me dis qu'à la moindre petite embellie, on pourrait avoir la semaine prochaine, pour peu que les publications soient un petit peu moins mauvaises que prévu, du plus 10, du plus 15, comme on a eu un petit peu sur Dassault Systèmes. Dassault Systèmes était à 17 euros en début de semaine, quasiment au plus bas depuis 10 ans, et puis ça remontait à 20 euros, tout simplement, parce que l'action était tellement survendue qu'à la moindre bonne nouvelle, ça peut remonter. Donc attention au secteur du luxe. Structurellement, je ne suis pas positif, mais je me dis conjoncturellement, il y a peut-être une petite reprise technique à attendre là-dessus.
Et oui, c'est vrai qu'on ne pourra peut-être pas que compter sur les méga primes des salariés de Samsung et de SK Hynix pour aller acheter des produits de luxe dans les boutiques de nos fleurons français. Il nous reste 4 minutes, ça vous fait 2 minutes chacun, ça vous laisse le temps pour nous dire dans quoi est-ce que vous allez investir, qu'est-ce que vous regardez, quelles sont les valeurs et les secteurs que vous regardez sur cette deuxième partie de l'année donc qui s'ouvre à partir de maintenant, Stéphanie Moget.
Oui, alors il y a eu en fait cette semaine encore beaucoup d'autres secteurs qui ont publié, comme un certain nombre de secteurs dans la santé, des Thermo Fisher, des Sartorius Tedim. Il y a eu aussi des très belles publications dans la défense. Donc ça, c'est vrai qu'on voit quand même des très bons résultats et ça a plutôt bien réagi. Des Thales, des Exail, des même Lumibird indirectement, qui est positionné dans les lasers pour la défense.
Dassault Aviation.
Voilà, donc ça, c'est des secteurs qui avaient quand même pas mal baissé après avoir fait des très belles performances. Vous voyez Rheinmetall qui est revenu à 1000 euros par action. Donc, pour moi, il y a une tendance de fond sur ces secteurs qui reste encore à jouer. Des investissements colossaux, des plans d'investissement européens notamment et américains. Donc, on peut aussi se positionner là-dessus. Le secteur de la santé, rapidement, effectivement, c'est assez divers comme publication, parce qu'un dernier avait été très prudent, un Thermo Fisher très positif, Sartorius plus 6%. Donc on voit quand même que malgré tout, c'est un secteur qui est peu cher, historiquement peu cher. Donc ça peut être une bonne manière de se mettre aussi un peu à l'abri sur ces secteurs.
Eric Lewin, la défense, la santé, vous signez d'autres idées?
Small et mid caps, on n'en a pas parlé, mais juste un mot, il y a une fusion quand même dans les plateformes logistiques assez intéressante entre Argan, c'est un groupe français, et le belge WDP, hein, dans les plateformes logistiques. Fusion pour former un groupe de 13 milliards d'actifs, 700 millions de revenus locatifs. La prime boursière est de 21% sur le dernier cours coté d'Argan, hein. Ça représente 79,22 € par action, parce qu'il y avait une énorme décote sur la société, puisque l'actif net était 94,80 €. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai le sentiment quand même que de plus en plus, sur le second semestre, on va avoir des opérations financières dans de nombreux secteurs, les logiciels, sans doute les équipes anti-automobiles, le monde de la santé, le monde des ESN. Moi, c'est ce qui va retenir mon attention, parce que j'ai vraiment le sentiment que vous avez beaucoup de chefs d'entreprise qui sont beaucoup moins bien suivis par les cabinets d'analyse, puisqu'on perd de plus en plus de cabinets d'analystes, hein. Il faut pas oublier que Gilbert Dupont a jeté l'éponge au cours du premier semestre. Et donc, moi, mon sentiment, c'est il faut regarder les boîtes small et mid, certains secteurs, je le disais, les logiciels, les ESN, la santé, peut-être le monde de la défense, on a vu ça avec Exel Technologies, il y a des choses qui peuvent se passer. Bref, moi je reste surtout sur les small et mid caps en termes d'investissement sur le second semestre.
Stéphanie Maget.
Oui, alors pour prendre le contre-pied, Eric, je suis d'accord avec toi. Et on peut peut-être aussi se dire qu'on joue quand même dans cette grosse méga tendance de l'IA, les grands acteurs de la mémoire, notamment les Skynix, les Samsung, les Micron, les Marvell Technologies. Alors là, c'est peut-être pour les investisseurs un peu plus aguerris, mais il y a une telle volatilité qu'on peut quand même se dire qu'on essaye de rentrer à des prix qui nous permettent, sur un moyen long terme, de profiter de cette tendance de fond et de méga capex.
Merci beaucoup pour ces commentaires, ces analyses. 17h56, je vous rappelle la clôture, c'est du vert hein, sur les marchés européens. Le CAC 40 termine la semaine sur une progression de 0,88%, 8372 points. On retrouve donc les 8300 points que l'on avait perdu hier. Le SBF 120, idem, 0,85%. L'Eurostock 50 plus 1,13% à 6280 points. Du côté de Francfort, c'est du vert aussi, largement, plus 1,33%, 25091 points. On est bien orienté aussi sur le marché américain. La séance est en cours à Wall Street. C'est du vert partout. Le S&P 500 plus 0,6%, le Dow Jones plus 0,7%, le Nasdaq plus 0,15%. Le pétrole toujours sous la barre des 100 $, 95 $, le baril de Brent. On est au bout de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. Stéphanie Maget, gérante privée à la Financière du ZES. Eric Lewin, stratégiste action chez Bourse Direct. Pour ceux qui le souhaitent, nous sommes ensemble encore pendant 30 minutes. Dans un tout petit instant, c'est le 18h écho, un condensé de l'actualité économique du jour. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.